lien direct entre passé et présent et qu'il faut parler de ces questions d'un point de vue moral, évidemment éthique, mais aussi monétaire. En France, on a encore du mal à penser ça en termes de...
Radio G, www.radio-g.fr.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que vous pourrez arroser et voir grandir. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires afin de cultiver notre jardin intérieur. Bonjour Émilie.
Bonjour Sophie. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Terrien qui va nous faire découvrir la naturopathie et spécifiquement la mycothérapie. Mais avant de commencer, si vous souhaitez réagir à notre émission, vous pouvez le faire sur le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Alors aujourd'hui, bonjour Valérie.
Bonjour Sophie, bonjour Émilie.
Bonjour Valérie.
Donc Valérie, nous faire part aujourd'hui de ton activité de naturopathe et donc spécifiquement de la mycothérapie, donc une particularité que tu as, que tu utilises. Écoute, je t'en prie, vas-y, tu vas pouvoir te présenter peut-être pas pour commencer et puis ensuite nous indiquer voilà ce qu'est la mycothérapie et comment on l'utilise et à quoi ça sert.
Yes. Alors, pour essayer de faire une petite histoire sur comment je suis devenue naturopathe, en fait, c'est en 2019 où j'ai décidé de quitter un métier qui me correspondait plus, où j'étais dans un milieu où j'aimais ce que je faisais, mais il y avait plus de sens. Donc, j'ai décidé à ce moment-là j'ai vraiment fait un peu comme on voit dans les séries ou les films, de dire non, mais là, je peux plus, je m'en vais. J'ai un peu fait ça. Je me suis levée de mon bureau, j'ai dit là, c'est bon, le moment est venu. Donc j'ai été voir mon responsable, je lui ai expliqué, j'ai dit là, tu vois, j'ai besoin de passer à autre chose. Et finalement, je suis naturopathe, je pense depuis longtemps. Sauf que je l'assumais pas, j'avais pas fait la démarche de me former vraiment et d'aller vers ce métier. Donc en 2019, je l'ai fait. Je me suis formée à la naturopathie sur une école à Paris. Et on nous a parlé à ce moment-là de la mycothérapie, mais c'est vraiment l'école de la vie moi qui m'a amenée à le pratiquer, parce qu'en fait mon mari est passionné de champignons depuis toujours, et en fait je l'ai accompagné quand on s'est mariés jeunes, et quand on avait 27 ans tous les deux, on a planté toute une parcelle avec des plants mycorhizés. Donc c'est un peu dans notre histoire, c'est notre ADN un peu les champignons, mais voilà, moi à l'époque la naturopathie c'était loin, la mycothérapie encore plus, mais voilà, c'est drôle de faire la rétrospective pour voir aujourd'hui où on en est en fait. Et du coup, quand c'est venu à moi la mycothérapie, ça m'a semblé tellement évident que j'ai plongé dedans comme on plonge dans un chaudron, et voilà, je me suis formée à ça et j'ai accompagné mon mari aussi qui a eu deux cancers. Et du coup, c'est aussi par là que j'ai mis en pratique, j'ai vu, j'ai appliqué. Et du coup, quand j'ai vu les résultats, j'ai dit non, mais il faut vraiment que je dise aux gens que ça existe, en fait. Donc, c'est un peu ça ma place aujourd'hui.
Et donc, tu as fait ta formation de naturopathe et c'est ensuite à la formation de naturopathie que tu t'es renseignée sur la mycothérapie, ou c'est pendant la formation que tu as appris la mycothérapie?
Ouais, en fait, nous, j'ai cette chance qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le propose. Et là, mon école, moi, c'est l'Institut de naturopathie humaniste. Je peux dire le nom avec grand plaisir. Et en fait, parmi les dirigeantes de l'école, il y avait une personne en particulier qui connaissait bien la mycothérapie. Et comme mon mari est tombé malade pendant que je faisais mes études, elle m'a tout de suite dit, Valérie, il faut que je te parle de ça. Donc, elle a accompagné mon mari, elle, en tant que naturopathe, elle me l'a proposé. Et du coup, on en a parlé vraiment. Et quand j'ai regardé, du coup, j'ai creusé plus. On en avait parlé en cours, mais voilà, c'était resté. Moi, ça m'avait passionné, mais j'avais pas été plus loin. Et du coup, par le fait de ce cancer qui est arrivé, je suis allée plus loin et j'ai creusé avec elle. Et voilà. Et là, on s'est lancé dans l'aventure.
Alors, c'est quoi exactement la mycothérapie? Parce
que c'est ça.
Pour l'instant, on commence à en parler. Mais voilà.
C'est ça. En fait, c'est le soin par les champignons médicinaux. Parce que les champignons, quand on parle champignons, les gens, ils ont plein de peur. Parce qu'il y a le concept un peu potion-poison qui est là, quoi. Et c'est vrai. Voilà, le champignon, c'est potion poison, comme beaucoup de choses finalement dans la nature, comme les plantes, comme voilà, il y a plein de choses qui sont potion poison. Donc les premiers réflexes champignons, c'est ah mais j'aime pas les champignons, ah mais en fait champignons médicinaux, c'est les champignons qui soignent. Donc ça, c'est pour moi, c'est une science ancestrale d'avenir. C'est quelque chose qui existe surtout en Asie, hein, c'est vraiment en Asie que c'est très présent et que c'est toujours resté finalement, et que nous aussi, on a des traces de par l'existence au niveau à l'époque des druides, à l'époque voilà de certains folklores païens, les champignons ça a toujours été là. Sauf qu'il y a une sagesse qui s'est perdue en fait, une transmission qui s'est pas faite à certaines époques. Après, si on retrace ça aussi avec l'histoire médicale, la pénicilline, c'est issu d'une moisissure, c'est un champignon. C'est aujourd'hui reconnu comme un antibiotique qui a été très efficace, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a sauvé vraiment beaucoup de gens. Et c'est issu des champignons. La cyclosporine, c'est un autre exemple. C'est un médicament anti-rejet qui est aussi conseillé dans notamment les greffes. Mon mari, son premier cancer, c'était une leucémie. Et les cyclosporines, c'est aussi issu des champignons. Enfin, vous voyez, il y a plein de ponts. Il y a plein de passerelles qui existent aujourd'hui, mais on a perdu vraiment le savoir de qu'est-ce que nous apportent les champignons médicinaux. Et c'est là, moi, quand j'ai vraiment cherché à comprendre ça, que j'ai creusé ça, que je me suis dit, mais c'est à la fois de la prévention, et avant tout, parce que nous, en tant que naturopathes, c'est ça notre rôle, hein, c'est de faire de l'éducation de santé et de la prévention. Nous, c'est là où on intervient. C'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Bon, après, voilà, vu les situations aujourd'hui, l'état de santé des gens en général, il y a plus que ça à faire. Mais notre rôle premier, c'est vraiment de faire de la prévention. Et le champignon, à ce niveau-là, il est juste génial.
Et le champignon, c'est quelque chose qu'on va aller chercher dans la forêt ou c'est plus un produit que tu vas prescrire?
Ouais, c'est un complément alimentaire. En fait, nous, on fait pas de prescription en tant que naturo, mais on conseille. Donc c'est du conseil, et donc les compléments alimentaires, c'est pareil, il y a vaste choix. Et c'est là où faut avoir un peu un œil, un expert, un œil, voilà, un peu plus, parce que nous on va creuser qu'est-ce qu'il y a dans les compléments, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, parce qu'il y a de tout, comme dans tout, hein. Donc faut vraiment faire attention à la qualité de ce qu'on donne, parce que ce qui est important, c'est d'avoir des champignons, quoi, parce que c'est eux, ils détiennent vraiment des molécules spécifiques. Et c'est ça qui fait qu'ils vont avoir un grand rôle à jouer, notamment sur notre immunité. Là, c'est là où sa principale qualité, c'est ça. C'est notre immunité. Parce que tout se joue là, tout se joue dans le microbiote, tout se joue dans notre niveau immunitaire. Ça, c'est important que les gens... parce qu'en fait, se réapproprier sa santé, c'est ça. C'est comprendre comment son corps fonctionne et comment en prendre soin. De son corps, de son terrain. Nous, on appelle ça le terrain, naturopathie. Ça veut dire que le fond, notre corps, comment il fonctionne. Parce qu'on a tous des corps différents et qu'il n'y a pas de potion ni de poison. On n'a pas de potion magique. Il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde. C'est chacun qui a un mode de fonctionnement. Et nous, notre rôle de thérapeute, c'est vraiment ça. C'est de comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui se joue pour qu'une personne, développe certaines pathologies? Qu'est-ce qui se joue? Nous, on cherche la cause de la cause de la cause. C'est ça notre job. On n'est pas là pour faire du symptomatique ou pour résoudre Non, on cherche plus loin. Et les champignons, ils sont super pour ça.
Et quel est ton astuce, justement, pour aller voir plus loin? Comment ça se passe? Tu vois, il y a une personne qui vient te voir. Je viens de voir. Voilà, je me sens bien. Et en même temps, je veux me sentir mieux, ou comme tu dis, c'est de la prévention. Comment je fais justement pour cultiver mon c'est ça, hein, c'est ce qu'on a dit en début d'émission. Comment cultiver notre jardin intérieur justement?
Ouais, c'est ça. Bah, vous voyez, en fait, un naturopathe, il a une vision holistique de la santé. Ça veut dire que pour nous, on repose sur 10 techniques naturelles de santé. Donc, il y a l'alimentation, la technique de base, l'exercice physique, la gestion du stress, donc la relaxation, du stress, de l'émotionnel, tout ça. Après, on a l'hydrologie, donc les soins avec l'eau, la qualité de l'eau que l'on boit. Après, on a bien sûr toutes les techniques naturelles, donc les techniques énergétiques. La voie du massage, moi, c'est aussi une voie que je porte, parce que le toucher, pour moi, la voie du massage, ça ouvre des portes encore autres. Et après, on a toutes les voies aussi... vibratoire, donc c'est infini en fait, la naturopathie. Et nous, en fait, le but, pourquoi je dis tout ça, c'est que pour moi, c'est ça plus ça plus ça qui fait qu'on retourne à l'équilibre. C'est pas je prends un champignon, tout va bien, j'ai rien d'autre à faire. Non, c'est ok, je fais ça, mais en fait, comme je dois prendre soin de moi, je prends conscience de qu'est-ce que je mets dans mon corps, comment je m'alimente, comment je gère mes états émotionnels? Est-ce que j'ai des temps de repos? Est-ce que je m'accorde aucun temps de repos à part une demi-heure le week-end? Comment je gère ma journée? Comment je prends soin de mon état physique global, en fait? Est-ce que je me mets en mouvement? Est-ce qu'on est trop sédentaire? Enfin, c'est le mal du siècle, la sédentarité. Donc, vous voyez, c'est global. Donc, les gens, souvent, quand ils viennent à moi, déjà, on fait un état des lieux. On dit on fait un peu un travail de détective, nous, les naturaux. C'est qu'on prend les indices, tac, tac. On collecte les indices, on écoute. C'est l'écoute, hein, qui est primordiale, écouter. Parce que finalement, les meilleurs médecins, c'est nos clients. C'est eux qui savent mieux que nous. Nous, on est juste là pour faire écho à leur mal-être ou leur questionnement, pour essayer de creuser et de voir ensemble comment on peut mettre en place des changements dans leurs habitudes, dans leur, des choses qui nous paraissent évidentes à nous, le sont absolument pas pour la personne en face. Et c'est ça qui est aussi primordial à comprendre, c'est que parfois ce qui est naturel pour moi va pas du tout l'être pour... Donc ça, des fois, on est surpris, on se dit « Ah oui, c'est vrai que là il y a besoin de remettre ça clair dans l'esprit de la personne. » Et après, on sait que le temps, ça prend du temps de changer des habitudes, ça prend du temps de remettre en cause son alimentation, parce qu'on sait que l'alimentation, c'est de l'émotionnel à 90%. Ça, c'est clair, hein. Donc, voilà, d'enlever toutes les croyances qu'on a, parce qu'il y en a un paquet aussi sur l'alimentation, remettre un peu les choses, vous voyez, dans un cadre un peu plus serein, et qu'en même temps, qu'il y ait une prise de conscience, en fait, et un engagement.
Et justement, parce qu'il y a quand même les auditeurs et l'auditrice qui nous écoutent, ils ont peut-être plein de questions.
Oui.
Et quand justement tu parles de, si je reprends le terme, limitante,
croyance limitante.
Pour toi, ça serait quoi souvent, c'est quoi qui revient le plus souvent?
Bah souvent, on nous dit non, mais il faut manger absolument de la viande tous les jours, ou absolument des produits laitiers trois fois par jour, ou absolument des fruits tout le temps. Bah non, en fait.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir des petites astuces
En fait, déjà, se dire, vous voyez, au niveau de la glycémie, donc notre indice de glycémie, le petit déjeuner français, c'est le pire de la planète, je crois. Il n'y a pas pire que le nôtre, entre le jus d'orange, les viennoiseries, le pain beurre confiture, enfin la brioche, je veux dire, nous on a le cocktail de tout ce qui, pour moi, ne fait pas sens pour le corps. Parce qu'en fait, notre indice glycémique, on le fait démarrer au taquet dès le matin. C'est-à-dire que, clac, dingo, dans le sang, on envoie l'indice que, ouais, le sucre, paf, on se dit, ouais, on est en forme, ça nous donne un coup de boost. Bah ouais, mais résultat, à 11h, on crève de faim parce que notre indice glycémique, il s'effondre. Donc, on rentre dans le yo-yo infernal du besoin de sucre et de fruits et de machin. Donc, déjà, pour moi, ça, c'est, souvent, je propose, moi, des petits déjeuners pour essayer de, j'y vais petit à petit, je propose, parce que pour moi, c'est un petit déj, c'est salé, quoi. C'est un petit déj, et quand je dis salé, c'est pas forcément de la charcuterie, hein. C'est pas ça, c'est plus, on peut même faire se manger des brocolis, des légumes, des houmous, des sardines, il y en a qui le font. Enfin, il y a plein de façons de faire qui, après, alors, je suis bien d'accord que ça se fait en douceur. Moi, je suis pas pour la violence dans les choses. Même s'il faut être radical, parfois. C'est différent. Mais vous voyez, faut aussi que les gens ils disent non mais attendez, on peut pas commencer en se disant on met dans notre corps autant de trucs. C'est pas de la nourriture. Vous voyez, c'est là où on a perdu ce que c'était la vraie nourriture, en fait, ce qui nous nourrit. Ce qui nous nourrit, c'est pas forcément ce qu'on entend. Enfin voilà, il y a plein de choses à remettre. Et moi, plus la nourriture elle est proche de la terre. Déjà, puis elle est issue de la terre, donc proche. Quand je dis proche de la terre, c'est ouais, les légumes, les fruits, donc non, les légumes frais, non transformés, ouais. Voilà, les choses simples, des amandes, des noisettes, une purée d'amandes, du bon pain ou levain. Et tout ça, c'est des choses qui sont de base, mais que les gens ont pas forcément non plus l'idée. Donc maintenant, c'est cracotte, Nutella,
même le lait,
voilà. C'est en fait, c'est tellement vaste que il y a beaucoup de critères qu'il faut remettre un peu dans le contexte. Et le produit laitier, clairement, nos amis sont nos amis pour la vie, on nous a baigné là-dedans, hein. Enfin, moi, mais pas pour tout le monde. Il y en a pour qui, il n'y a pas de souci, il y en a d'autres, c'est un poison.
Ah oui, voilà, tout dépend pour qui, hein.
Ça dépend pour qui.
Oui, ce que tu disais tout à l'heure, chacun, on est tous différents, et en fait, c'est bon aussi pour ce qu'on ingère, quoi.
Ouais. C'est ça, et c'est la quantité et la qualité aussi. Parce qu'il y a produits laitiers et produits laitiers, c'est toujours pareil. On n'est pas en train de faire le procès des produits laitiers, juste de dire, dans certains cas, pour certaines personnes, faut arrêter, quoi. Ça se voit, le microbiote, il est
Et toi, en tant que naturopathe, tu leur fais faire des analyses ou déjà tu le vois
En fait, ça physiquement. Ça se voit par la. Souvent, quand on pose beaucoup de questions, notamment sur la digestion. Ouais, voilà, c'est déjà on a tous les indices. On dit comment ça se passe pour vous le transit. Alors nous, les naturaux, on va directement dans le vif du sujet. Hein, on parle des selles, la couleur, comment elles sont. Voilà, parce que ça donne un indice tout de suite. Donc c'est tout bête, hein, mais vous voyez le transit, sa façon de digérer, ça en dit long déjà sur l'état du corps et la force et la vitalité en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est des indices, comme je vous dis, un travail de détective qui nous emmène vraiment à creuser, à se dire ah oui là il y a, mais je vous apprends rien si je vous dis que voilà, dans la plupart des cas la digestion c'est là que moi je me dis bon sang, les gens ouais, pour eux c'est normal d'aller à la selle 3 fois par semaine, 2 fois, alors que non quoi, c'est tous les jours. Rien que ça nous donne des indices sur l'état de santé.
Ouais, même des personnes qui partent en voyage et qui arrêtent d'aller à la selle, ouais, le stress
c'est ça, il y a plein de choses hein, qui interviennent. C'est en ça que comprendre de quoi notre corps a besoin, c'est important de se dire voilà, quand on sait qu'on part en voyage, moi aussi la première hein, j'ai des fois les transits qui sont voilà, parce qu'on change nos habitudes, on est dans un autre environnement, enfin il y a plein de choses qui influent, notre environnement aussi il influe sur nous, c'est quand je vous dis que c'est holistique la santé, c'est que vraiment il y a beaucoup de paramètres, mais en même temps savoir que de quoi nous on a besoin et pourquoi, parce que notre corps il a besoin de ça, parce que physiologiquement où on a hérité de quelque chose, on a un héritage, ça c'est sûr, dans nos cellules. On a après toutes le conditionnement de notre environnement, on a toute notre gestion du stress, notre rapport à nous, notre estime de nous-mêmes, tout ça c'est lié. Et c'est en ça qu'il faut arriver à décrypter pour arriver à faire un accompagnement le plus ajusté et le plus individualisé possible. Moi je crois pas aux recettes miracles ni aux formules magiques qui sont bonnes pour tout le monde, ça c'est pour moi c'est une hérésie. C'est en ça que notre rôle il est important.
Et c'est pour ça que en tant que mycothérapie,
oui. mycothérapeute.
C'est là que là tu peux intervenir, dire parce que là oui. Toi c'est quand même une de tes particularités, oui. On va dire. T'es installée sur Angers,
Non, je suis sur Chalonne.
Ah, t'es sur Chalonne. Okay. Ouais. Il y en a peut-être pas beaucoup sur Angers, les alentours, en fin de compte, qui sont spécialisés en.
Non, ouais, on n'est pas tant que ça. Même si moi, j'essaye de le faire connaître, voilà. Mais la mycothérapie, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la nature, les champignons, c'est des filtreurs, des éboueurs, des nettoyeurs, des décomposeurs. Ils font du lien. C'est l'internet de la forêt aujourd'hui. Voilà, il y a un certain nombre d'ouvrages qui l'ont prouvé. Et pour moi, les champignons, c'est des magiciens à leur niveau. Dans le sol, ils créent la vie. Ils transforment la mort en vie. Enfin, vous voyez tout ce cycle un peu alchimiste que font les champignons dans la nature. Eh ben, ils font la même chose dans nos corps parce qu'on a 30% de génome en commun avec les champignons. C'est énorme quand on réfléchit. C'est voilà, on sait que la vie sur Terre, elle est arrivée grâce aux champignons aussi. C'est eux qui ont créé le sol. C'est eux qui ont créé la vie dans le sol pour que la nature et tout se mette en place. Et les champignons, aujourd'hui, on fait un pas en forêt. On a 500 kilomètres de mycélium sous chacun de nos pas. C'est dingue de se dire ça. Et dans les corps, moi, c'est ça que je fais souvent le parallèle aux gens pour qu'ils comprennent bien. Ils font pareil, en fait. C'est des draineurs, des éboueurs, des régénérateurs. Ils vont aussi refaire des connexions. Enfin, c'est impressionnant le rôle qu'ils peuvent avoir. Après, encore une fois, il y a des gens pour qui ça va super marcher très vite, d'autres moins vite. Il y en a qui ont besoin plus de temps. Enfin, vous voyez, il n'y a pas une posologie qui sera la même pour tout le monde. C'est petit à petit, voilà. Par contre, moi, ce que je vois, c'est du coup les résultats.
Que t'as vu justement par ton mari. Vu,
ouais, par mon et mari, puis, puisque oui. Lui, voilà, dans les accompagnements cancer, c'est aussi ça. Enfin, pour avoir vécu tout ça, cette traversée du désert, hein, on va dire, ce que c'est d'accompagner quelqu'un qui a un cancer, qui a toutes les difficultés du monde, et c'est en ça que moi je crois en une médecine intégrative. Moi, je crois dans l'addition des compétences des thérapeutes pour accompagner une personne vers sa guérison. Et les champignons, c'est en fait, ils sont forts pour nous accompagner dans ces moments-là parce qu'ils nous permettent d'avoir moins d'effets secondaires. Ils sont aussi là pour parce que c'est ça aussi le rôle du naturopathe, c'est d'accompagner le bien-être. voilà, le bien-être de la personne, essayer de, voilà, d'avoir qu'il ait une hygiène de vie qui lui permette de traverser ça. Et c'est en ça que la mycothérapie, elle est forte parce qu'elle permet tout ça. Et aussi, ils ont un vrai rôle de, voilà, sur le corps, quoi.
Et on peut les prendre même si on n'est pas malade.
Ah oui, au contraire.
Oui, au contraire. Ouais,
au contraire, en prévention, vous voyez, si on veut, là, on est à l'intersaison. Par exemple, à la rentrée, on sait que tout le monde reprend un rythme, voilà, on sait qu'on va avoir moins de lumière, on va être exposé à plus de stress aussi. Et bien, les champignons, ils peuvent soutenir notre énergie, ils peuvent soutenir notre immunité en prévention. Voilà, pour se dire l'hiver, et bien, on aura peut-être moins de sinusite, ceux qui sont tout le temps malades, chez les enfants, chez, voilà, c'est juste de reprendre sa santé en main, c'est ça, c'est de se dire, attends, là, ouais, c'est l'intersaison, on sait, c'est un fait, on est cyclique. On est fait de cycles, voilà. Il y a des périodes dans l'année où on a besoin de soutien. Et les champignons, en fait, comme c'est un aliment, en plus, vous voyez, c'est pas un médicament, c'est un aliment. C'est un aliment. Donc, on n'a pas de dépendance, d'effets secondaires, tout ça. C'est là où c'est chouette aussi.
Donc, on le prend en cure. Et non, après, ça s'arrête ou c'est tout le temps, tout
en fait,
au long de l'année?
On peut le prendre en cure. Bah, quand c'est de la prévention, voilà, on peut le prendre en cure. Mais vous voyez, moi, pour des gens qui ont des, par exemple, des pathologies, des choses plus ancrées, plus chroniques, là, ça va être sur du long terme.
Par exemple, tu peux nous donner quelques exemples sur lesquels tu interviens, quand tu dis des pathologies chroniques.
Oui, par exemple, sur des gens qui ont beaucoup de douleurs, d'arthrose, beaucoup de... Après, il y a de tout, hein. On rencontre tellement tout. Mais encore une fois, nous, notre rôle, vous voyez, c'est pas de se fixer sur une pathologie. C'est pour ça que je remets bien ma place de naturopathe. Moi, je suis pas là pour soigner une pathologie. Je suis là pour accompagner une personne qui est en souffrance et qui a besoin, voilà. Et elle va continuer les traitements en cours. Mais nous, à côté, on fait en sorte qu'elle se sente mieux.
Sauf que là, on est en train de t'écouter. Et une personne qui t'écoute, qui se dit, ah, bah, tiens, pourquoi j'irai voir Valérie? Qu'est-ce que tu peux lui dire, en fin de compte?
Ben, je peux lui dire qu'il y a plein de moyens naturels aussi de se soigner. Mais pour ça, il faut s'engager envers soi-même à le faire et à changer des habitudes qu'on a qui sont souvent mauvaises. Et qui peuvent nous nuire sans qu'on le sache. Et pour moi, c'est ça le plus terrible. C'est qu'en fait, on nous apprend pas, par exemple, à bien s'alimenter. À l'école, on nous apprend pas qu'est-ce que c'est la cuisine, qu'est-ce que c'est un bon repas. Non, on nous dit le petit déjeuner, c'est un verre de jus de fruits, des céréales pour les enfants. Mais pour moi, c'est une aberration, quoi.
Donc, il faut être prêt à être aussi, à s'opposer, avoir le regard des autres.
Ouais.
Et se dire, ah, t'es bizarre, toi, en train de prendre tes champignons. Non, mais c'est ça ouais. Qui est dur aussi, c'est le regard des autres, hein.
Ouais.
Ouais, mais si tu sais que tu le fais pour toi et que ça
mais dans une famille, entre le mari, les enfants, je sais pas si tu vois ces problématiques, des fois des gens qui disent bah mais moi je vais faire comment?
Et ben moi je leur dis mais à un moment donné qui reprend le pouvoir? Enfin, à qui appartient votre santé? Vos proches, à vous, à qui ça appartient ça? À qui il est? C'est qui le responsable de votre corps? C'est vous. Donc la connexion au corps, je veux dire, ça fait partie aussi des choses qu'on fait parce qu'il y a plein de gens qui en fait sous-traite ça. Il dit bah j'ai mal là, hop, je vais aller voir le médecin qui va me donner un médicament pour ça. Non, à un moment, est-ce qu'on peut pas se dire OK. Alors je fais un état des lieux. C'est un peu ça notre rôle. On fait un état des lieux, on regarde ce qui se passe. Quel système est en souffrance, quel système a besoin d'être rééquilibré, comment on fait, sur quoi on s'appuie, qu'est-ce que la personne a envie de faire, parce que les gens ont le droit de pas avoir envie de transformer toute leur alimentation. Enfin, je l'entends. Je veux dire, on fait des choses aussi réalisables. On va pas faire, voilà, on promet pas des choses irréalisables.
Et justement, c'est ce que je me disais il y a pas longtemps, ce que j'ai pensé à l'alimentation. Mais en fin de compte, dans une famille, tu sais, le soir, on a tendance à mettre le même repas pour tout le monde. Mais en fin de compte, on peut pas tous manger la même chose.
Non.
Il y en a un justement qui peut manger de la viande, que l'autre ça va pas du tout lui correspondre.
C'est
vrai. Moi, je suis en train de revoir justement cette façon de faire. Et après, on va se dire ouais, mais bon, on va pas faire un plat pour tout le monde. Ça paraît enfant gâté. Ça paraît.
Et c'est
vrai. Est-ce que ça
c'est là nos croyances?
Ouais, voilà. C'est ça.
C'est là toutes nos croyances. Et c'est vrai qu'en France, vu le rythme de vie qu'on a, le repas du soir, c'est sacré en fait. Donc finalement, beaucoup de gens mangent vite fait le midi et mangent beaucoup trop le soir. Parce que c'est un bon moment, parce que c'est un lien social, et bien sûr que l'alimentation c'est social aussi, et que le lien, bien sûr qu'on en a besoin. Mais est-ce qu'on peut pas se retrouver autour d'une table et puis se dire bon, moi de quoi j'ai envie ce soir, qu'est-ce qui me ferait plaisir, et puis plutôt que de dire ah ben ce soir c'est ça et voilà et tout le monde prend la même chose.
Et de forcer les enfants.
Et de forcer
aussi.
Les enfants. Ah mais t'as pas goûté. Mais peut-être que les enfants ils aiment pas parce qu'ils ont raison de pas aimer. Et nous on est là à dire ah non mais t'aimes pas mais faut que tu te forces. Bah non.
Et même au niveau des horaires, moi je sais pas si vous voyez, mais moi je sais que j'aurais plus faim à 18h ouais. qu'à 20h.
C'est ça. Mmh. Et c'est donc... à 18h qu'il faudrait manger.
Ah ouais.
Les anglo-saxons, ouais. les pays du Nord, c'est ça. Le rythme leur permet ça parce que c'est culturel. Mais nous, clairement, 20h c'est tard. Hein, parce qu'on est censé avoir digéré avant de dormir, vous voyez.
Ouais.
Sauf que là, finalement, alors non seulement on mange un repas qui est souvent riche, et en plus on le mange trop tard. Donc ouais. La nuit...
On mange à 18h pour remanger à 20h, mmh. parce qu'on grignote,
oui, aussi.
Et, voilà. Et même au niveau des humeurs, hein, ça joue. Hein.
Ça joue. En fait, c'est ça. C'est, et donc tout ça, ça fait partie aussi de qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place, et comment, et encore une fois, c'est facile à dire, hein, parce qu'il faut, on a aussi une vie, les gens ils sont dans un,
oui, c'est ça.
Dans un cadre, voilà, faut aussi respecter, enfin je veux dire, faut pas faire un truc non plus trop, mais de, juste de se le dire, par exemple le week-end, alors qu'est-ce, tiens, je vais faire l'expérience, ce week-end je vais manger plus tôt, et je vois ce qui se passe. Est-ce que je dors mieux? Est-ce que je me réveille en ayant faim? Parce que la plupart des gens, ils se réveillent, ils ont pas faim, hein, tellement ils ont mangé la veille. Et ça aussi, c'est un signe, hein. Parce qu'on on serait censé avoir faim en se réveillant. Mais souvent, on n'a pas faim. Sauf qu'on se dit, ah bah oui, mais il faut qu'on mange pour aller à l'école. Et, bah, t'es sûr? Est-ce que t'as vraiment besoin? Bah, pas sûr.
Oui, donc pas forcément forcer pas un forcément. Enfant qui a pas faim le matin de manger.
Non. Moi, par exemple, ma fille, vous voyez, je l'ai forcée. Alors moi, je l'ai fait, ça, quand elle était petite, parce que voilà, je me disais, mais non, faut que tu manges. Et quand j'ai fait, j'ai commencé à chercher un peu, j'ai dit, mais... Et là, j'ai, en naturo, on a parlé de tous ces sujets-là, bien sûr. Et là, je me suis dit, oh, mais non, en fait, elle a pas besoin de manger le matin. Elle a besoin de manger à 11h. Et c'est comme ça. Et depuis qu'elle fait ça, ma fille, ah, mais elle est beaucoup plus concentrée à l'école, contrairement à ce qu'on nous dit, hein. Ah, mais il a pas mangé, il va pas être concentré. Non. C'est que ça dépend encore une fois de chaque enfant. Alors, bien sûr qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de manger le matin. Ça, c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on leur donne? Du sucre? Bah, je vous conseille pas. Pourquoi il y a autant d'enfants hyperactifs? Voilà, c'est le sucre, c'est une catastrophe, quoi. C'est pire que... En fait, on a confondu le bien-être alimentaire avec on nous a conditionnés, hein. C'est tout ça, c'est en ça que c'est difficile de se réapproprier une autre alimentation, parce qu'on est souvent montré du doigt, on dit non, mais lui, c'est bon, là, le naturo. Elle a encore nous de sortir des trucs, ça va, c'est bon, mais bah oui, mais ça saurait si c'était ça qui était bien. Et bah oui, mais si justement, je vous invite à tester, expérimenter, faites l'expérience, comme avec les champignons, faites l'expérience, faites-vous une idée. Moi, je suis pas là pour proclamer une vérité, parce que il y a une phrase qui dit fuyez ceux qui disent avoir trouvé la vérité et suivez ceux qui la cherchent. Ben je préfère qu'on suive ceux qui la cherchent, parce que voilà, il y a pas de vérité, il y a que des expériences.
C'est joli, Valérie. Oui. Merci. T'as des choses à rajouter, Émilie?
Ben non, mais moi je voulais juste te remercier, Valérie, pour ton intervention, et puis inviter les gens qui ont mal, qui ont essayé plein de choses, on va dire dans les manières plus traditionnelles, et qui ne voient pas d'amélioration. Et ben peut-être essayer d'aller expérimenter des choses autres et de voir ce qui se passe. Peut-être que ça peut les aider.
Semer des graines.
C'est l'idée, voilà. Mmh. C'est l'idée, c'est de cette émission. C'est vraiment ça, c'est d'ouvrir aussi
le
champ des possibles sur ce qui peut se passer. Enfin voilà, ce qu'on fait d'autre et qui peut aider.
Et vous pourrez retrouver justement sur www.radio-g.fr notre émission, et on va y mettre tes coordonnées.
Okay.
T'as un site internet.
Oui.
Voilà. Donc tout sera. Vous aurez juste à cliquer sur Valérie Thérien et vous irez directement sur leur site.
Alors Valérie, est-ce que tu as, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as quelques choses à nous dire pour compléter et pour finir l'émission en beauté?
Ben, je vous invite à regarder un documentaire qui est sur Netflix, qui s'appelle Fantastic Fungi. Et vous allez découvrir le royaume des champignons, et puis avec des images et des explications et des témoignages qui sont riches. Je vous invite à le regarder.
Ok, très bien. Ben, merci, Émilie. Valérie. Valérie.
Merci à toutes, en tout cas. Et très bon week-end à tout le monde.
Oui, et puis on se retrouve dans 15 jours. We'll be right back.
101.5 FM.
Dix minutes dans le noir. La chronique polar de Radio G.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 10 minutes dans le noir, la chronique qui parle du polar en BD sur Radio G. Mais pour cet épisode, changement de décor, je vous ai parlé